Partie 3. Les épousailles.
Là, pourtant, l'aube. Elle finit par venir, elle que rien au départ ne semblait annoncer. Là, cette rumeur ténue, ample, surgit de nulle part et de partout. Là, le seau d'eau qui teinte et l'immobilité du transistor posé sur le tabouret à côté de la couche du père. Entre les planches disjointes de la bicoque, la nuit n'était plus que cette lumière sale. Il pleuvait dehors. Anka imaginait le ciel affaissé sur Petite Venise que la pluie malmenait. Un vrai ciel de matin de pluie à Petite Venise où rien ne manquait, même pas l'odeur de la boue dans les narines qui dit que le marécage est sorti de ses limites pour aller à l'assaut des collines. Comment ne pas se regarder? Comment ne pas s'étonner? Anka se regardait, mais ne s'étonnait qu'à peine de se voir là où il était, allongé, son sexe dressé, la tiédeur du sperme épars sur son ventre, si près des ronflements du père, comme un champ d'accueil, tandis que le toit émaillé de trous laissait passer les gouttes qui frappaient çà et là, jusque sur la paille de sa couche. Quelle heure pouvait-il bien être? Il était sur mon tôt. La main de Kota ne s'était pas encore tendue pour tourner le bouton du transistor à l'heure des premières nouvelles du jour. Kota dormait encore. Cette pluie ne pouvait pas le déranger, bien au contraire. Elle le berçait comme le bercerait le clapotement de la mer contre une pirogue à l'ancre. Il était encore trop tôt. Mais qu'importait l'heure, puisqu'Anka était là, rendu au monde, à Petite Venise, à la bicoque, à tous ces objets familiers qui lui confirmaient qu'il ne dérivait pas, que sa barque sur la nuit liquéfiée était venue échouer sur le rivage où il les avait laissés. Devait-il attendre que le contour de toute chose se précise pour rompre enfin le silence? Anka se demanda s'il ne serait pas plus sage, au contraire, qu'il aille sans tarder vers Kota. Tant pis si son père bondit à l'appel de cet enfant de rien décidément venu au monde pour troubler son sommeil. Il grommellera, irrité sans aucun doute par le contact de cette main, de cette peau sous laquelle couraient les veines charriant le mauvais sang de Nindia. Et si, tout simplement, il devait être surpris? Surpris jusqu'à l'émoi, à la seule vue du fils penché sur son visage. Anka voulait lui dire. Il ne pouvait pas ne pas lui dire cette simple vérité. Jamais il ne s'était réveillé par un matin pareil, lui qui s'était couché hier dans la certitude de son aïeul à jamais silencieux. Mais était-ce bien lui, cet autre qui se sentait soudain lavé du long deuil de Tat Rediwa? Son sexe encore dressé et la tiédeur du sperme sur son ventre étaient là pour l'attester. C'était bien lui et non un autre, cet enfant que l'aïeul ne pouvait plus contredire. C'est pourquoi il se leva et alla d'un pas assuré vers Kota. Là, penché sur ce père qu'il n'avait jamais vu d'aussi près, sa main sut trouver le geste simple qui invite. « Père, écoute-moi. J'ai enfin l'âge où les masques livrent leurs secrets. » La voix d'Anka ne suppliait pas. Elle n'avait plus besoin de supplier. Et comme les sourcils du père se soulevaient d'étonnement, Anka comprit que Kota lui demandait s'il savait seulement ce qu'il venait de dire. Alors, Anka hocha la tête et dit au père. « Regarde, je me suis couché hier et j'ai vu, de mes yeux vu l'abîme. Du fond du gouffre, j'ai entendu la voix de Tat Rediwa surgir, tissant en un seul conte l'éparpillement des paroles semées au fil des saisons où j'allais m'asseoir sur ses genoux. L'insistance du ciel soudain chauffé à blanc m'a fait haleter. Me voilà un parmi un peuple qui déferle dans un vacarme assourdissant. Une nuée d'oiseaux sombres plane au-dessus de nos râles. L'horizon. Je cherchais l'horizon qui pouvait borner le ciel d'un royaume si vaste. Pour toute réponse, je n'entendis que la chamaille accoucheuse de tribus. Au cœur de notre débâcle, une voix se leva pour dire « Venez, je suis l'aîné de mon père, l'horizon sera du côté que désigne la main droite. » Le puîné aussitôt se dressa pour dire que l'horizon viendra du côté de la main gauche. Me voilà du coup faisant partie du rameau qui ne savait pas, qui ne savait plus, et qui se ruait d'instinct jusqu'à un promontoire où la terre sous les pieds surplombe les frémissements du pays où règnent nos graisses. Alors je contemplais la douceur de fermer les yeux, douceur déjà évanouie sous la clameur de la bataille qui se livrait dans mes viscères. S'abolir, taire jusqu'au battement du cœur, ne plus respirer, emprunter à la pierre sa rigidité, ou alors fondre, devenir fluide, fuir, fuir de nouveau. Qu'importe si c'est à rebrousse-chemin, pourvu que le mouvement soulève le vent du mensonge. Elle était si pressante, cette envie, que j'ai vécu les affres de ne pouvoir m'arracher à cette terre maudite. J'étais sans jambes ni bras, juste un tronc, un arbre pétrifié face à la forêt sombre. L'ogresse. La hideuse aux mains lourdes de griffes était adossée contre mon horizon. Pour ne pas la dévisager, j'eus le mouvement brusque de l'enfant que l'effroi tasse sur lui-même et jette contre une poitrine bienfaisante. Mais là, seul mon cœur battait. Blotti contre la terre muette, mon cœur devenu fou cognait dans un bruit assourdissant, tandis que mes yeux s'emplissaient de la couleur du morceau de ciel insensé qui figeait ma saison. « Ne tremble pas, mon enfant. » Ce fut là le murmure qui me vint aux lèvres et qui me fit comprendre que je tremblais en effet d'écouter l'ogresse s'ébrouer. Souveraine, Djouké s'avançait vers moi, la hideuse aux mains lourdes de griffes. Elle avait la démarche lente d'un fleuve profond charriant le lourd tribut de ses victoires au fil des contrées. Le vent mugissait dans ses cheveux hirsutes de folle regard halluciné. Rugueuse, solide, compacte, pleine. Comment se pénétrer de sa silhouette et ne pas écouter le sinistre craquement des os broyés dans ses corps à corps? Elle approchait. De ses aspérités montait, avec l'haleine, l'odeur âpre d'une terre d'alluvion. L'animal, le végétal, jusqu'à l'effritement des pierres là dans le marécage de son ventre. La démente. Elle était là, penchée sur moi. Qu'attendait-elle pour user de ses dents faites pour déchirer? Qu'attendait-elle pour broyer? Mais voilà que son œil s'embuait. On dirait qu'elle savait pleurer. Djouké se mit à gémir. Elle, tranchante, anguleuse, abrupte, s'arrondissait soudain, en se saisissant de ses lourdes mamelles qu'elle se mit à pétrir lentement, avant de se laisser choir, m'offrant cette béance entre ses cuisses écartées. Et je sentis mon sexe s'enfler, raide comme un doigt désignant le chemin. Djouké, tout contre moi, avait la respiration un peu heurtée que donne une grande soif. Elle n'était plus qu'un champ aride que je labourais et baignais de sueur. Rien ne m'étonnait, ni elle, ni cette vague qui montait. Elle se dépêchait, elle roulait dans le charivari de cette nuit soudain constellée. Alors, je crus voir l'ocre et le kaolin sur ce promontoire. Tout n'était plus qu'ocre et kaolin dans mes yeux. L'horizon ainsi paré des couleurs du sang coagulé et du lait maternel semblait offrir un baume pour mes lèvres gercées, pour ma gorge nouée. « Ma promise !» murmurai-je à l'instant même où la vague éclaboussait la nuit, avant de me déposer là, sur cette couche que je croyais lit de mort. « Voilà, père, ce que j'ai vu et que je tenais à te dire, » ajouta Anka. Kota hocha la tête. Une expression de satisfaction mêlée de gratitude illuminait son visage, comme si le fils venait de lui rappeler quelque chose qu'il savait depuis toujours, mais qu'il avait oublié. Pour la première fois, Anka l'entendit l'appeler par son véritable nom.
« Reniwa, nommé d'après mon père, si tu as vraiment l'âge où les masques livrent enfin leur secret, explique-moi l'ocre sur ce visage. »«
Je vois l'ocre dans tes yeux posés en toute saison, comme depuis Tari. » L'ocre, comme un crachat sur ton visage. L'ocre sur la terre devenue chair qu'on t'arrache. L'ocre quand toute chose se tait pour mieux se repaître de ta langue d'agonisant. L'ocre encore et encore sur toi du lever au coucher.
Que peut bien signifier alors le kaolin sur ce visage?
Qui peut le comprendre, père, s'il n'est pas la main penchée sur ce visage? Ne me le demande pas. J'ai à peine l'âge où les masques livrent leurs secrets. Le père le considéra un instant, puis lui dit
« Penche-toi, mon fils, penche-toi sur ce visage, et n'oublie pas de venir dire à ton père, toi qui as enfin l'âge où les masques livrent leurs secrets. »
Ce jour même, Anka escalada pour la première fois les collines qui séparaient Petite Venise du reste du monde. Il marcha longtemps, au hasard, à travers la ville, ivre comme entraîné par ce qu'il croyait être seulement le plaisir de se promener, d'être là, au cœur de la capitale de son pays. Et pourtant, quand il finit par aboutir du côté de la corniche, il comprit que ce qu'il voyait à cet instant justifiait à lui seul son désir de marcher. Devant lui, la mer. Anka la contemplait avec l'émerveillement de quelqu'un qui retrouve une connaissance après une longue absence. Et dire qu'elle avait toujours été là, à quelques pas de Petite Venise. Il lui aurait suffi de faire à l'envers le chemin qui le conduisait là-bas. Mais pouvait-il le faire? Le voulait-il seulement, lui qui n'aimait rien tant que le silence recouvrant toute chose? Derrière lui, la ville. Devant lui, la mer. Le bruit des vagues, comme une rumeur bienfaisante accompagnant l'offrande d'un aïeul. Suivre le rivage, longer cette digue, jusque là où le grand fromager et la rivière de Gros Galet étaient, là où la case en terre battue était, pour que les yeux ramènent à côté de l'ocre ce qui nourrit ombre fait épouse. Onca s'avança pour aller simplement s'asseoir sur la digue contre laquelle venait se briser la mer. Devant lui, la ville, grosse de tout ce vacarme où la forêt mêlait ses voix à celles venues d'ailleurs. Écumer ce territoire, s'y enfoncer, l'arpenter, jusque là où les pieds peuvent mener, là où l'oreille peut encore écouter, pour que les yeux ramènent à côté de l'ocre ce dont se nourrit ombre fait épouse. Onca commençait à comprendre pourquoi il ne pouvait ne pas venir ici. Il savait ce qui l'avait poussé. Voir de ses yeux, voir en plein jour ce que voulait dire son aïeul pendant qu'il dormait. Voir ombre parée d'ocre et de kaolin. Derrière lui, les vagues, comme la rumeur bienfaisante accompagnant l'offrande. Et dire qu'elles avaient toujours été là, à quelques pas, tel un démenti renouvelé aux heures où tout affirmait que l'offrande n'eut pas lieu.